Je vous remercie chacun d'entre vous qui êtes là aujourd'hui. Il y a des visages que je connais, que j'apprécie. Merci pour votre présence. Et pour tous ceux que je ne connais pas, merci pour votre présence aussi. Et merci à vous. Voilà. Soyez bénis chacun dans votre famille, avec vos enfants, les grands-parents. Voilà. Et j'ai une pensée pour les malades. Malades du cœur, malades de l'âme, malades physiquement. Voilà. Alors, on va commencer le message. Ça va se faire en deux temps. Et on va voir si ça marche. Ah, ça marche. Faut lancer peut-être la première diapo. Voilà. Alors voilà. Vous connaissez l'histoire pour certains d'entre vous, mais pour d'autres pas. Il y a 2 ans, 3 ans, peut-être, je ne sais plus. Avec Sabine, ma femme, on se promenait. C'était le jour de un jour de septembre, mais début septembre, puisque c'était le jour de la grande braderie de Lille. Donc on ne va plus à la braderie de Lille depuis longtemps, on se promenait. Donc on venait de par là, et ici, là, clac, à cet endroit-là, il y avait des planches, toutes simples. Derrière ces planches, parce que je me suis avancé, j'étais intéressé par ces planches, mais pas vraiment. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Et il y avait quelque chose. Il y avait ceci. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ça? Je vous avais présenté ça il y a 2-3 ans. Le livre de la cuisine juive. Alors, c'était étrange parce que dans ma démarche, je devais faire un message et je cherchais, je ne trouvais pas de sujet. Et l'Esprit Saint me guide, derrière ces planches, tu trouveras quelque chose. C'est pas venu comme ça, c'est pas vrai. Mais j'avais été attiré par ce qu'il y avait derrière. Et le livre de cuisine juive. Seigneur, je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ensemble, dans l'assemblée, j'avais posé la question. Moi, j'avais un petit peu de temps d'avance sur vous, puisque j'avais réfléchi. Et bon, il y a eu des réponses qui étaient toutes intéressantes. Et moi, il m'avait semblé qu'à la fin, le Seigneur me disait, à travers ce livre, il faut se nourrir de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle vient des Juifs. Elle vient d'Israël. Et c'est un symbole, c'est vraiment quelque chose qui nous parle directement. Et pourquoi je reviens à ça? Parce que j'ai eu il y a quelque temps un accident. Je n'ai donc plus de voiture en ce moment. Et régulièrement, je prends le bus. Et l'arrêt de bus est juste à côté de cette maison. Et par hasard, je lève les yeux, je vois le numéro 365. Et je me suis dit, mais Seigneur, c'est vrai? Tu m'as donné un livre, la parole de Dieu, il faut la manger, il faut se nourrir de la parole de Dieu 365 jours. Voilà. Alors Seigneur, c'est étonnant, mais c'est comme ça, c'est... Merci Seigneur, 300... Et alors, je me suis interpellé, parce que moi-même, tous les jours, je ne lis pas tous les jours la parole de Dieu. Mais voilà, c'est une invitation. Vous êtes invité à entrer dans la parole de Dieu tous les jours, à la manger et à la digérer, voilà. Maintenant, je vais commencer par le sujet qui nous intéresse. Alors, ça a été un peu compliqué pour moi, parce que cette semaine, ce mois-ci, ça a été un mois difficile pour moi. Et j'ai eu du mal à trouver le sujet. J'ai trouvé le sujet il y a 4 jours. Je ne trouvais pas. Donc, j'ai été chercher dans ce que je reçois de Daniel Sten, qui fait des cours d'hébreu, et j'ai retrouvé un message qu'il avait fait, qui ne vient pas de lui, qui vient de Haïm Wiszenan. Wiszenan, bon, je ne le connais pas, mais il a fait une étude sur cette... Est-ce que vous connaissez cette... Pardon? T'es écrit? Non? Alors, 7, moi, personnellement, ça ne me dit rien du tout. Hein. Donc, mais par contre, nous connaissons tous... Pardon? Ouais, c'est ça, bravo. Ouais, très, alors, voilà, hein, super. Robert, bon point. Bravo, donc 7. Alors, nous connaissons tous l'histoire de Caïn et de Abel, mais nous parlons très peu de 7, qui est en fait le fils qui a remplacé Abel. Le nom Abel n'est pas tout à fait exact. Le nom véritable en hébreu, c'est Evel. On reviendra dessus après. Alors, la diapo suivante. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Faut mettre un... S'il te plaît, Jacques, voilà. La naissance de Seth. Alors, voyez, ça c'est intéressant parce que c'est les cours de Daniel. Il nous met le verset en hébreu et en dessous, la traduction, c'est presque du mot à mot. Mais il faut savoir qu'un mot hébreu peut avoir de nombreuses significations différentes. Donc le traducteur est obligé de faire un choix dans les verbes qu'il va utiliser. Et donc ça change parfois le... Ben non, il fonctionne normalement. Il y a peut-être là... Ah, ben bien sûr, Rémi, je ne mets pas tout. Merci. Alors, on va commencer avec la naissance de Seth. Genèse 4, chapitre 4, verset 25. Alors éventuellement, vous pouvez regarder dans vos Bibles, parce que vous verrez qu'il y a des différences de traduction. Adam connut de nouveau sa femme. Elle enfanta un fils et lui donna pour nom Seth, parce que le Seigneur m'a accordé une nouvelle postérité au lieu de Hevel, Abel, Caïn l'ayant tué. Alors le nom de Seth vient de la racine Sit, dont le sens est accordé, mettre, poser, fonder. Je fais un petit peu de cours hébreu là, hein, mais c'est intéressant parce que on voyait un mot veut dire plein de choses. Alors, je vais expliquer un petit peu parce que ça sera utile après. Ici, vous voyez, il y a des couleurs, des mots en hébreu qui sont de couleurs différentes. Et vous les retrouvez ici. Donc, ça se lit de. Voilà. La lecture est comme ça, de droite à gauche. Donc, premier mot en rouge, c'est un fils. Deuxième mot en rouge, sept. Bleu, postérité, et noir, nouvelle. D'accord, hein, vous retrouvez ça. C'est pas très important, ça le sera après, parce qu'à un moment donné, on travaillera un peu. Alors, après, de ce mot Sit, on peut écrire le mot Sat, qui a un autre sens, qui veut dire le sens fondé. Donc, la naissance de Seth représente un fondement après la mort d'Abel, qui est une brisure. Abel est une brisure. Par contre, Seth est un fondement. Seth est donc la réparation d'une brisure. Ça, c'est important. On passe au suivant. Est-ce que ça marche? Ah, ça ne marche pas. Non, il faut à la diapo suivante, Jacques, s'il te plaît. Voilà, un nouvel espoir. Ah, Genèse 4, verset 26. À Seth, lui aussi, il naquit un fils, il lui donna pour nom Enoch. Alors je vais nommer un rabbin qui est très connu, Rashi. Rashi a expliqué qu'à chaque fois qu'on trouve le mot ben, c'est-à-dire fils, quand on trouve fils dans un verset, cela veut dire qu'à partir de lui, le monde se construit. Ah, c'est important. Donc quand vous trouvez dans votre Bible fils, eh bien à partir de lui, quelque chose s'est construit. Le monde se construit. Enoch, donc, Enoch fut donc un nouvel espoir pour le monde. Voilà. Diapo suivante. Ah non, d'abord, je vais donner quelques explications sur Rashi, parce qu'on ne le connaît pas, moi je ne le connaissais pas, il a fallu que je regarde un petit peu sur Internet. Donc Rashi, c'est un rabbi Shlomo, voilà, qui est plus connu sous le nom de Rashi, ou Rabbi Shlomo, ou Shlomo de Troyes. Alors il est né à Troyes en France, vers 1040. Hein, c'est vieux, hein. Et il meurt 65 ans plus tard, dans la même ville, le 13 juillet 1105. On a des écrits, on sait tout ça. Alors, il est principalement connu pour ses commentaires sur la quasi-totalité de la Bible hébraïque et du Talmud de Babylone. Il est l'un des principales autorités rabbiniques du Moyen-Âge et compte parmi les figures les plus influentes du judaïsme. Vous voyez, c'est une personnalité très forte qui aujourd'hui nous impacte encore quand des personnes veulent travailler sur la Bible. On va prendre référence parfois sur cet homme qui a fait des études très approfondies sur la Bible. Donc, Rabbi nous dit, quand nous lisons dans le verset « Fils », cela veut dire qu'à partir de lui, le monde se construit. Enoch fut donc un nouvel espoir pour le monde. Alors, une chose intéressante, par rapport à Abel et Caïn, on ne parle pas de fils. Photo suivante. C'est 4-26. Donc c'est, maintenant, il faut aller dans Genèse, verset 4, verset 1 à 2. C'est moi qui dois le faire. Ah, ça marche, voilà. Ça y est, c'est super, ça marche. Alors, on va lire ensemble. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Hevel. Hevel fut berger, et Caïn fut laboureur. Voilà. C'est bon. Postérité et alliance. On change de titre. Plus tard, concernant la naissance de Noé, l'Écriture parle également d'un fils. Voilà. Postérité et alliance. Genèse 5, versets 28 à 29. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Un fils. Il lui donna le nom de Noé. En hébreu, on dit Noar. En disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Un fils, donc le monde se construit à partir de Noar, de Noé. Noé, ça signifie repos, tranquillité. Noé descend directement de Seth, directement. Et grâce à lui, le monde a pu continuer. Le déluge était une brisure. Mais Noé fut la réparation de la brisure. Il est appelé un fils. Dieu a fait une alliance avec lui et sa postérité. Verset 9. Et moi, je veux établir mon alliance avec vous et votre postérité qui vous suivra. Donc c'était verset 9. Du chapitre 9, voilà. Donc c'est là qu'on voit. Ah, c'est bien, disons le texte. Tu as monté le volume, on dirait, non? D'accord. C'est bien. Chapitre suivant. Donc là, on va travailler. C'est là qu'on va travailler un petit peu ensemble, parce qu'on voit dans ces deux versets qu'il y a des mots qui reviennent. Donc il y a celui-là, oh pardon, je reviens en arrière, c'est ça. Ici, il ne faut pas que je me trompe. Voilà, ici, ce mot-là, on le retrouve en bas, ici. C'est un peu, voilà, vous voyez? Ces trois lettres, on les retrouve ici. Ensuite, le deuxième mot, c'est celui-là qu'on retrouve ici. Ces deux versets. Alors, le premier mot signifie descendance, semence, postérité. Le deuxième mot, celui-là, signifie après, différent, mais aussi altérité ou altruisme. Altérité, ça veut dire différence, distinction, contraste, caractère de ce qui est autre, fait d'être différent ou distinct. Altruisme, ça veut dire dévouement, se consacrer à autrui de façon désintéressée, sans rien attendre en retour, aider les autres. Alors, ce que je veux souligner, en fait, avec le mot ici, le deuxième mot, qui se prononce arer, est traduit ici dans les deux versets par postérité. Mais ça pourrait être aussi avoir un sens un peu différent si on le traduit avec le mot altruisme. C'est possible ? Le mot le permet. Alors à ce moment-là, ça voudrait dire que la réparation doit se faire avec un fils altruiste et une descendance altruiste. C'est intéressant. Donc altruiste, je dis bien, c'est le dévouement, se consacrer à autrui de façon désintéressée. Un autre sens de l'édification du monde, une autre façon de voir les choses. Alors, Genèse 4, verset 1. Or, la dame connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et dit, j'ai formé. Entre parenthèses, on dit j'ai acquis parce que, en hébreu, c'est ça, c'est j'ai acquis. Un homme avec l'Éternel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous voyons que dans ce verset, qu'Ève s'approprie la naissance de Caïn. Elle ne parle que d'elle. Caïn est en quelque sorte sa propriété. Ceci sous-entend sans doute une coupure avec son mari, Adam, qui n'est même pas cité dans ce verset. Mais il y a plus grave. Caïn serait tellement lié à sa mère qu'il ne supporterait pas la présence d'un petit frère. Le nom Caïn veut dire acquisition. Il vient de la racine Canian, qui signifie propriété. On passe à un autre verset. Voilà. Je vérifie vers Genèse 4, 25. Parce que Dieu m'a accordé une descendance, une autre que celle que Abel, Caïn l'ayant tué. Dans ce verset, nous observons cette fois que la naissance de Seth, c'est que Dieu lui accorde une descendance. C'est lui qui pose le fondement d'un fils.
Je suis bien en... Oui.
Cette descendance sera autre, c'est-à-dire altruiste, tandis que Caïn ne l'était pas. Alors, je vais maintenant apporter... Je me sors de l'étude parce qu'il m'a semblé intéressant de revenir sur la mort de Caïn et d'Abel. La mort d'Abel par Caïn. Alors, si vous voulez prendre votre Bible, Genèse 4, verset 8. Alors, moi, j'ai pris la version Louis II. Alors, 4, verset 8. Vous y êtes ? Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. J'ai été rechercher dans la Bible de Chouraki le même verset. Il dit des choses autrement. Caïn dit à Abel, son frère, point de suspension. Et quand ils sont au champ, Caïn se lève contre Ève, son frère, et le tue. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle là derrière ? Caïn dit à Ève, son frère, point de suspension. Et quand ils sont au champ, il le tue. Les Juifs, hein, je suis vraiment côté, j'ai un regard sur les Juifs, hein, vraiment, c'est leur façon de voir les choses. il pense que par rapport à ce verset, eh bien, Caïn ne dit rien. Il ne dit rien à son frère. Point de suspension. Et il le tue. Voilà, c'est simplement pour montrer ce qui se passe avec Caïn et Abel. Deux mondes opposés. Je reviens à l'étude de Wiseman. Abel, devient pasteur de menu bétail et Caïn était un travailleur de la terre. Alors oui, c'est deux mondes opposés. Il y en a un qui travaille la terre et l'autre qui s'occupe du bétail. Donc c'est deux façons de voir les choses. Ils n'ont pas les mêmes problèmes. Deux façons de voir les choses. Mais elles sont utiles au monde. C'est vraiment important d'avoir les deux. Le terme Abel n'a pas de sens. C'est nous qui l'avons créé. Le vrai sens, c'est Evel. Et dans ce mot, on le retrouve dans Ecclésiaste 1, 2. Et je vais vous citer le verset en vanité, des vanités, tout est vanité. Vous connaissez ? Et donc, c'est ça. Et vanité, Evel, ça signifie buée, vapeur, vanité. Quelque chose qui s'évapore, qui s'envole. On peut dire que par le nom d'Abel, quand on prend Evel, ça signifie qu'on savait qu'il n'allait pas rester longtemps. C'était une buée, quelque chose qui allait partir. Alors, le premier qui eut l'idée de faire une offrande à Dieu, ce fut Caïn. Evel a-t-il voulu l'imiter ? On ne sait pas. Par ailleurs, l'offrande d'Evel, ayant été agréé par Dieu, l'orgueil n'était pas apparu? N'y a-t-il pas eu un mépris réciproque? Ça, on ne le sait pas. Pourtant, un homme spirituel est celui qui sait se détacher de ce qu'il a. Et ce fut le cas de Evel. Abel a su se détacher de tout ce qu'il a. Caïn n'a pas supporté l'affaire et a tué son frère. Au fond, il n'était que deux. Et ils n'ont pas su s'entendre. Ils n'ont pas su se partager le monde. Ce fut vraiment un désastre. La buée s'est envolée et l'acquisition, Caïn, a décidé de s'éloigner de Dieu. La connaissance de l'Éternel. Genèse 4, verset 16. Caïn se retira de devant l'Éternel et séjourna dans le pays de Nod, à l'Orient d'Éden. Alors, la pire punition qu'un homme puisse avoir, c'est de se retirer de la présence de Dieu. Car alors, il n'a plus aucune solution. Si on regarde le mot Nod, ça signifie fuite, errance. Et donc, il est toujours en errance, en fuite. Quelque chose de terrible pour un homme. Donc Genèse 4, verset 26. À Seth, lui aussi, il naquit un fils. Il lui donna le nom d'Enoch. Alors on commença d'invoquer le nom de l'Éternel. Alors, dans ce verset, on voit que lorsque Dieu pose le fondement, il pose un fondement parce qu'il y a... Il pose le fondement parce qu'il y a un fils. Donc à Seth, il naquit un fils. Il y a un fondement ici pour Enoch. Et on commença d'invoquer le nom de l'Éternel. Et nous voyons que lorsque Dieu pose un fondement, les choses se réparent. Photo suivante. La généalogie d'Adam. Alors, là il y a des mots. Hein. Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalalel, Lerer, Ranok, Methuselah, Melech, Noar, Sem, Ram et Lefet. Tout ça ce sont les gens, la, la lignée, voilà. Nous constatons que la généalogie d'Adam, Caïn et Ève ont disparu.
Ils ne sont pas là.
Caïn et Abel.
Or, Adam, il l'a bien dans sa lignée.
Abel et Caïn, ils ne sont pas là. Ils ont disparu, ils sont sortis de l'histoire. Ils n'étaient pas des fils. Vous comprenez ? Ce n'étaient pas des fils. En fait, il y a une histoire spirituelle là-dedans, derrière. Quand on est dans la continuité de ce que Dieu veut, on est dans l'histoire, on est dans une continuité, quoi. Quand on est en dehors, on est hors du livre. Alors,
pourquoi Seth est dans cette histoire par rapport à ses frères ? Quelle est la différence ? Eh bien, on va le voir ici.
Donc, dans Genèse 1, 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Dans Genèse 5, verset 3, Adam, ayant vécu 130 ans, enfanta un être à sa ressemblance et à son image, et lui donna le nom de Seth. Donc ça, c'est important. Nous remarquons ici que c'est Adam qui enfanta. Ève ne prend plus la propriété de l'enfant. Par ailleurs, se distingue Seth de ses deux frères, c'est qu'il était à l'image d'Adam, lui-même façonné à l'image de Dieu. Ce n'était pas dit de Caïn ni de Ève. Ils ont disparu. À partir de là, Enoch, son fils, fut à même de construire quelque chose de durable avec Dieu. Ceci n'est pas une question biologique, mais spirituelle. Seth est la copie d'Adam. Voilà. Alors, le message se termine ici. Et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que ça peut nous apporter, tout ça ? Et je pense qu'effectivement, ça nous apporte de se reporter sur l'histoire. Comment, dans la Genèse, on peut être, nous, quelque part, des fils, des filles de Dieu, dans un projet qui est porté par Dieu. Et c'est ce que je vous souhaite à tous, que on aille vers l'avant. C'est la sanctification. On va vers ce chemin où on va se... Voilà. On va vers le mieux. Dieu va nous guider. Jésus est derrière nous. Il nous accompagne. Il nous travaille, on va y réussir. Voilà, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ça. Alors, je vais prier. Seigneur Jésus, fais-nous grandir dans ton amour pour être chaque jour davantage plus près de ton image. Permets à chacun d'avoir un fondement qui vient de toi pour réparer là ou les brisures de nos vies. Permets aussi à chacun de devenir des filles, des fils altruistes, pour construire le monde et être des réparateurs de brèches, comme Dieu l'a prévu. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Nous ne voulons pas nous approprier ce qui t'appartient. Nous savons que lorsque le Père, notre Père, pose le fondement, les choses se réparent. Je te remercie, Jésus, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu es. Amen.